Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des fringues sur Vinted, si vous avez une voiture électrique, si vous avez réduit votre consommation de viande, si vous prenez des kebabs plutôt que des sacs en plastique. C'est tous ces petits gestes éco-responsables qui nous donnent l'impression d'aller dans le bon sens. Et puis, aujourd'hui, je reçois Fanny Pariset, qui est une chercheuse, une anthropologue, et qui vient comme un poil à gratter. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les enfants gâtés », qui est une anthropologie du capitalisme responsable. Et dans cet épisode, elle va nous expliquer comment, à travers des croyances, on passe la consommation éco-responsable comme un alibi pour ne rien changer. C'est intéressant, elle parle des nouveaux sauvages, dont moi je fais totalement partie, elle aussi d'ailleurs, et elle nous met un miroir devant le visage pour nous montrer comment on change pour surtout ne rien changer. C'est un regard qui est hyper intéressant parce qu'on a toujours un peu de mal à prendre du recul sur soi-même, et en même temps qui, je vous le dis un petit peu, fait grincer, parce que évidemment c'est... En tout cas, en ce qui me concerne, nos actes, nos us et coutumes au quotidien aujourd'hui. Je vous laisse écouter l'épisode qui, je suis sûr, va vous intéresser. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais très bien.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle. On va faire grincer aujourd'hui, je pense, un tout petit peu.
On va rigoler peut-être aussi.
On va peut-être un peu rigoler, on risque de faire grincer, mais on va voir. On parle beaucoup d'écologie, de plus en plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle même parfois de la crise du vivant. On a même vu France Inter faire un papier, enfin pas un papier, mais je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas... Ils ont dit qu'ils allaient parler beaucoup plus d'écologie, de toutes les problématiques, etc., que c'était un engagement qu'ils prenaient, donc il y a vraiment des choses qui bougent. C'est quoi, toi, ton image de la France aujourd'hui par rapport à la crise? Alors, moi, je préfère parler de la crise du vivant que de la crise écologique, parce que je trouve que la crise écologique, c'est trop réducteur, parce que ça voudrait dire qu'on doit juste résoudre la problématique du CO2, ce qui n'est effectivement pas le cas. C'est quoi ton image de la France aujourd'hui par rapport à cette problématique?
C'est l'image d'une France qui est un petit peu affolée entre éco-anxiété et une réalité qu'elle se prend en pleine face, mais qui n'est pas forcément nouvelle pour autant, parce que ça fait des décennies qu'on parle de cette fameuse crise du vivant et des répercussions de nos modes de vie, de nos sociétés thermo-industrielles sur le vivant, sur nous, sur la planète. Donc une bonne claque qui commence à déstabiliser et à faire paniquer, à la fois à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Mais comme je suis un petit peu une emmerdeuse, même si c'est très bien, moi je dis attention, parce que si tout le monde en parle, si tout le monde a le même discours et que ça fait consensus, est-ce que ça pousse vraiment à l'action et au changement, ou alors à l'inverse, est-ce que ça maintient dans un statu quo un collectif qui se gargarise de leur nouvelle manière de faire, des petits gestes autant nécessaires qu'insuffisants par rapport à cette fameuse transition socio-environnementale?
Et effectivement, on va parler de petits gestes. Il y a plusieurs figures, on va dire, françaises de l'écologie qui disent bien que la problématique, c'est pas tant les petits, c'est super de les faire, mais en réalité, le problème est systémique. Donc en fait, c'est plutôt une problématique au niveau des modes de vie, plutôt une problématique au niveau des entreprises, des produits qu'on achète et de tout ce qui est associé au final. Vraiment, c'est nos modes de vie qui sont problématiques. Toi, tu parles de capitalisme responsable. C'est quoi le capitalisme responsable?
Le capitalisme responsable, c'est une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Autrement dit, comment, via une approche réformiste de nos modèles de société et nos institutions, on arriverait à passer le cap de cette crise sociale, écologique et environnementale. Et le capitalisme responsable, tel que je l'entends dans mes recherches, vise à transformer l'existant pour donner l'illusion du changement, mais en réalité, rien ne change vraiment. Je m'explique, c'est qu'à l'échelle des individus et de manière sincère, effectivement, ils ont mis en place plein de petits changements dans leur vie quotidienne qui sont éminemment structurantes pour eux et qui, la plupart du temps, se sont faits quand même face à des renoncements et c'est pas évident de changer. Et ça, on peut pas le renier, c'est un fait. Par contre, si on se décentre un petit peu, qu'on dézoome, et qu'on se détache de l'individu, de ses émotions et du discours qu'il va avoir sur ses pratiques, et ben on se rend compte qu'on a eu des déplacements qui assurent toujours la désirabilité de nos modes de vie, des offres, des services ou des expériences qui vont être proposées dans notre société. Donc, on a l'impression de changer et à l'échelle d'une personne, c'est vrai, on change, mais par contre, à l'échelle des groupes ou d'une société, les changements sont beaucoup plus relatifs. Et en plus, tout ça s'inscrit dans le phénomène de l'effet rebond qui vise à un découplage entre croissance économique et effet sur la planète. Donc effectivement, aujourd'hui, on va avoir une limitation des effets néfastes sur la planète par rapport à nos modes de vie. Mais comme on consomme plus, eh ben, c'est un petit peu questionnable parce qu'il y a un phénomène socio-anthropologique autour de ça. C'est quand on a l'impression de consommer bien ou d'avoir un mode de vie qui est vertueux, eh ben, paradoxalement, on consomme plus.
Alors, on va prendre des exemples pour que ça soit encore un peu plus clair. Tu parles de Vinted, entre autres, donc du marché d'occasion pour les fringues. Est-ce que c'est à ça qui fait référence ? Est-ce que tu as d'autres idées en tête ?
Alors, Vinted, c'est un très bon exemple parce que c'est un exemple qui va être connu par énormément d'individus et qui marque bien le changement de mentalité anti-capitalisme responsable. Vinted, c'est quoi ? C'est la valorisation des objets de seconde main comme quelque chose qui va être de bon ton dans la société de consommation dans laquelle on se situe. Les vêtements et le marché de l'occasion a toujours existé, mais était l'apanage d'une catégorie de population très spécifique, soit alternative, soit sous contrainte de budget fort. Aujourd'hui, avec cette démocratisation du marché de la seconde main, de manière très spontanée et à très court terme, on se dit que c'est super cool et que c'est un progrès social parce que on valorise des vêtements qui ont été très peu portés, etc. Par contre, dans les faits, on se rend compte que Vinted peut pousser à une nouvelle forme d'hyperconsommation, dans la mesure où le fait d'acheter moins cher ou même de vendre pour quelques euros ses vêtements permet d'économiser une somme et de racheter parfois plus de vêtements. Et même, ça amène à une notion anthropologique que je développe dans mon bouquin qui s'appelle le crédit moral, c'est qu'une bonne action permet de justifier d'autres actions peut-être un petit peu moins vertueuses pour la planète. Donc si on achète sur Vinted, eh ben, on va se dire, bon bah ok, c'est cool, on peut aller chez Zara ou acheter sur Shein parce que quand même, on a fait notre part.
Voir, on peut prendre l'avion. Pour rentrer dans le détail, parce qu'en fait c'est intéressant ce point sur Vinted, c'est-à-dire que bien sûr quand tu achètes sur Vinted, tu achètes des produits qui existent déjà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de production dédiée, et en fait on sait bien que le coton, un t-shirt, un jean, etc., ça consomme énormément d'eau, enfin bref, tout ce que ça